France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Un retour ce matin sur la très polémique proposition de loi Duplomb, avec au cœur des débats la réintroduction donc d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. Alors comme on n'y comprend pas grand-chose et qu'il faudrait éviter de faire de la politique avec notre santé, j'ai souhaité inviter Marc-André Sellos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un grand biologiste, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et d'après ce que j'ai compris, vous êtes en réalité un spécialiste des symbioses, c'est-à-dire que vous avez notamment mis en lumière le rôle fondamental des micro-organismes dans le fonctionnement des écosystèmes. Vous avez notamment étudié la stratégie qu'adoptent certaines plantes pour obtenir du carbone via leurs partenaires fongiques. Elles font des associations, c'est ça, Marc-André Sellos ?
Des associations qu'on appelle les mycorhizes et qui permettent à 9 dixièmes des plantes d'exploiter mieux le sol à moindre coût en s'associant à des champignons auxquels elles donnent du sucre. En échange de quoi, le champignon va faire les courses dans le sol. Et on le méconnaît parce que ces champignons sont partout, mais 9 dixièmes des plantes ne poussent pas sans ces alliés fongiques qui leur permettent de se nourrir.
C'est-à-dire qu'on a affaire à une forme d'altruisme du vivant.
Altruisme réciproque, mais charité bien ordonnée qui commence par soi-même. Ces champignons assurent non seulement la nutrition de la plante, mais aussi une protection de la racine. Ils ont un rôle phytosanitaire. Et chose assez méconnue, ce rôle est systémique. Il s'étend jusque aux feuilles. Et ce rôle protecteur, en réalité, vous savez, le champignon protège en quelque sorte son garde-manger, puisqu'il dépend des plantes pour obtenir du carbone. Mais ça nous raconte que comprendre un organisme et sa santé et son fonctionnement, c'est comprendre ses liens à son milieu et aux autres organismes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé. Vous voyez, quand vous donnez des engrais minéraux à une plante, elle pousse mieux, mais vous rompez l'intérêt de cette association et les effets phytosanitaires. Aujourd'hui, l'agroécologie, c'est ce qui permet d'utiliser ces liens pour faire de la production végétale.
Si je vous ai invité, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas que de la science dans la vie, Marc-André Sellos, il y a aussi de la politique. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez étrange à l'Assemblée nationale. Lundi, donc hier, les députés du bloc central de droite et d'extrême droite ont voté à une très grande majorité la motion de rejet préalable de la proposition de loi Duplomb. C'est la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Et c'est un fait exceptionnel. Parce que la motion de rejet a été déposée par le rapporteur même du texte, donc celui qui aurait dû normalement le défendre, c'est le député Julien Dive. Et c'est un député des Républicains. Et alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un calcul purement politique, puisque le vote de cette motion de rejet va permettre l'accélération de l'acceptation du texte. Un peu contre-intuitif, plus on le rejette, plus il est accepté. Mais ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le grand public, c'est que cette proposition de loi, elle vise notamment à réintroduire un pesticide d'une famille qui est désormais connue, y compris des néophytes.
Tristement.
Ça commence pareil. Les néonicotinoïdes. Marc-André Sellos, qu'est-ce qu'un néonicotinoïde ?
Alors, c'est un insecticide puissant et qui agit par le biais d'une action, donc d'une cible dans le système nerveux, c'est le système acétylcholinergique, c'est-à-dire cette discussion chimique qui s'opère entre neurones au niveau des synapses avec une molécule qui fait relais entre deux neurones pour transmettre de l'information, qui est l'acétylcholine. Alors, le truc qui est déjà intéressant à noter, c'est que vous et moi, nous utilisons aussi l'acétylcholine. S'il est vrai qu'effectivement les insectes qu'on veut détruire avec les néonicotinoïdes l'utilisent, bien d'autres animaux utilisent ça. À peu près tous les animaux utilisent ce mécanisme. Et donc, sont autant de cibles potentielles. Et ça, c'est le vrai problème des pesticides en général, mais des néonicotinoïdes en particulier, c'est qu'il y a des balles perdues. C'est qu'en fait, ils touchent à des mécanismes qui existent plus ou moins chez d'autres organismes. Alors, plus ou moins, bien sûr. Vous et moi, nous n'allons pas mourir si nous procédons à une aspersion de néonicotinoïdes dans notre champ de betterave. N'empêche qu'il y a des toxicités latentes. Il y a des effets cocktails aussi avec d'autres molécules et qu'on peut être aussi des cibles de ça.
Mais alors, attendez, parce que vous parlez de balles perdues, donc on a bien compris qu'on était dans la question des effets secondaires ou des victimes collatérales de ces néonicotinoïdes, mais comment elles fonctionnent ? Parce que à l'origine, ces néonicotinoïdes, ils sont pas là pour faire du mal aux abeilles ou aux humains, ils sont là pour empêcher, j'imagine, les mauvaises herbes de pousser. Ça existe une mauvaise herbe, d'ailleurs, pour un biologiste ?
Alors, en l'occurrence, les nicotinoïdes s'intéressent plutôt aux insectes, par exemple les pucerons de la betterave, qui, sur la betterave sucrière, transmettent un virus qui provoque une chlorose, une jaunisse. Bon. Maintenant, il y a aussi des herbicides qu'on utilise. Hein. Toutes ces molécules, elles ont pour but de faciliter la production. Et c'est vrai qu'elles la facilitent transitoirement, mais petit 1, il y a les fameuses balles perdues, et dans les balles perdues, il y a nous et notre santé, et la santé des agriculteurs. Je rappelle, par exemple, qu'alors qu'ils ont 20 à 40% de cancer en moins que le reste de la population, les agriculteurs, ils ont quand même 50% de lymphome de plus que le reste de la population, 20% de myélome en plus, ce qui ramenait une base agricole veut dire 90%, 50%, n'est-ce pas? C'est quand même marqué. Ils ont 50, à 55 ans, ils ont 13% de Parkinson en plus. Ils sont les canaris dans la mine. Ils sont la preuve d'une toxicité de ce qu'ils manient. D'ailleurs, on pourrait aussi donner.
On en est certain.
Sur les riverains. Ah ben, c'est la MSA qui nous dit ça. Et on en est certain parce qu'en fait, la deuxième chose, c'est que les tests sont faits pour des toxicités aiguës. Mais ce qu'on ne teste pas, parce que c'est impossible, c'est qu'est-ce qui se passe quand sur 5, 10, 15 ans, on a des expositions à des doses non létales, sublétales, comme on dit. Or, c'est ce qui arrive pour l'agriculteur, c'est ce qui arrive pour le consommateur, c'est ce qui arrive pour les animaux des champs. En d'autres termes, ça c'est quelque chose que la réglementation ne peut pas prendre en compte parce qu'on ne sait pas faire ces tests-là. C'est quid de la toxicité à des doses non létales qui ne provoquent pas la mort d'une espèce donnée. Bien sûr, les doses qu'on utilise provoquent la mort de l'espèce indésirable, mais les autres sont censées survivre, sauf qu'elles sont exposées durablement et avec un effet cocktail avec d'autres substances. Et c'est pour ça que rapidement on finit par retirer du commerce plein de substances parce qu'on s'aperçoit de cette toxicité là qui est dure à prédire. Alors en fait,
mais alors attendez, parce que une toxicité à des doses sublétales, elle donne quoi?
Vous voulez qu'on parle de l'acétamipride peut-être?
Parlons-en. Et que vous me la présentiez, parce que malgré tous nos efforts pour réussir à prononcer son nom, l'acétamipride, là aussi, à quoi sert-elle et pourquoi aujourd'hui s'intéresse-t-on à elle alors qu'on a eu droit à d'autres pesticides jadis, comme le Roundup, qui était beaucoup plus célèbre, tristement célèbre?
C'est une molécule extrêmement toxique et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc il va falloir qu'on parle de la forêt ensemble. Mais aujourd'hui, elle est un peu le seul, entre guillemets, recours, et on peut reparler de ça, c'est faute d'en avoir exploré d'autres en fait, contre les pucerons qui, chez la betterave, transmettent le virus de la jaunisse, et contre les balanins et les punaises diaboliques qui mettent en péril la production de noisettes. Il y a aussi des problèmes sur les navets, c'est un petit peu le seul outil comme bien développé, facile d'application, pas trop cher si vous excluez les coûts de santé à terme, qui est disponible pour les agriculteurs pour ces cultures-là. Donc c'est aussi malheureusement quelque chose qui est extrêmement toxique pour les insectes. Il y a un article qui est sorti hier soir, alors c'est une mauvaise coïncidence, hein. Alors sur les néonicotinoïdes en général, hein, et qui montre qu'en fait, ce que souffrent les abeilles, qui sont une indication de toxicité, par exemple, il y a tout un groupe très important d'hétéroptères dans les champs, dont des prédateurs, des insectes nuisibles, pour lesquels c'est 11 000 fois plus toxique que pour les abeilles. Donc, on en parle beaucoup parce qu'il est très très toxique pour les insectes.
Mais alors, c'est vrai, je vais utiliser un terme, ou plutôt un constat très empirique, mais on a l'habitude de dire qu'on a une disparition des insectes. On le voit par exemple par le biais des pare-brises de voitures qui désormais sont propres alors que jadis ils étaient très sales. Ça par exemple, c'est quelque chose qui est corroboré par vos recherches,
Marc-André Sélos ? Alors, pas les miennes propres, mais par toutes celles de la communauté scientifique. En effet, on sait très bien que en Europe, sur les 30 dernières années, 80% des insectes ont disparu. C'est pas qu'il y ait des espèces qui aient disparu, c'est que les populations se sont effondrées. Effectivement, vous nettoyez moins votre pare-brise. D'ailleurs, en Angleterre, il y a des suivis des populations d'insectes qui s'opèrent en mettant juste des petits carrés sur la plaque minéralogique de la voiture et en comptant le nombre d'insectes, et on charge en ligne le nombre d'insectes et le nombre de kilomètres qu'on a fait, et ça permet des suivis très très bien foutus.
Juste une question là-dessus, parce que ces néonicotinoïdes, ils sont utilisés depuis des années, je veux dire, ça ne fait pas 30 ans qu'on les utilise, c'est antérieur à cette date-là.
Ah bien sûr, mais c'est pas les
alors
seuls.
Alors comment cela se fait-il que cet effondrement il se produit maintenant? Parce qu'on imagine que l'agriculture des 30 glorieuses, elle était assez redoutable en matière
de... Mais il ne se produit pas maintenant. Il se produit pas maintenant. Il est continu. Les insectes n'ont pas brutalement disparu de nos pare-brises, sinon on s'en serait aperçu. Il a fallu une génération pour qu'ils disparaissent de nos pare-brises. Non, 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 détrompez-vous, c'est très très progressif. Et l'alerte a été donnée dans les années 80. On a dit, oh là là, ça c'est des chercheurs qui essaient de faire mousser leurs données et d'exploiter. Ça fait quand même... Moi je suis dans une communauté scientifique qui depuis 40 ans dit c'est en train de baisser. Non, ce qui a été brutal, c'est que les gens s'en sont rendus compte. Dire, bah oui, la carie couvre, on a un petit peu mal à la dent, puis quand la dent s'effondre, là on voit qu'il y a une carie. Mais c'est important, hein, ça, c'est que peut-être on n'a pas assez écouté les scientifiques. Mais ils vous disent autre chose, les scientifiques. Ils vous disent, un, que la disparition des insectes, c'est sous la disparition de leur fonction. Par exemple, les insectes pollinisateurs du cassissier en Bourgogne, en 37 ans, ils ont diminué de 99%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour augmenter la production, c'est pas la peine de mettre plus de pesticides. Il faut élever des osmies qui sont des insectes pollinisateurs. Donc ça augmente les coûts pour obtenir autant. Mais si vous réintroduisez les pollinisateurs, vous pouvez multiplier la production de cassis jusqu'à 2,5 fois. Et deuxième chose, revenons à l'homme, parce que quand même, il faut en parler. Votre acétamipride, là, reprotoxique, toxique pour la reproduction et la spermatogénèse, neurotoxique, problème de développement du système nerveux chez l'enfant, cancérigène possible. Notamment au niveau du foie. On peut dire qu'on s'en fout des insectes, mais excusez-moi d'avoir un petit faible humaniste. Le problème, c'est aussi la santé humaine, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, des médecins rejoignent les scientifiques écologues dans une demande de régulation plus nette des pesticides.
Je continue à vous embêter, Marc-André Sellos. Il y a quand même des insectes qui, eux, sont de plus en plus nombreux. Le frelon asiatique, on n'en avait pas. Il a l'air de bien se porter malgré l'usage des néonicotinoïdes. Il y a des mouches, des fourmis, toutes sortes de bestioles qui continuent à exister. Alors, elles survivent pourquoi ? Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines espèces s'en tirent mieux que d'autres ?
Dans un pays de 40 000 espèces d'insectes, c'est évident qu'il y en a qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Et ils le tirent d'autant mieux d'ailleurs que les autres ne sont plus là. Et dans les espèces qui s'introduisent, il est évident qu'une espèce qui arrive à s'introduire, comme le frelon asiatique, comme les coccinelles exotiques, comme la punaise diabolique, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, c'est ceux qui sont tolérants à ce cocktail toxique. Mais il n'empêche que la majorité y est sensible. Et c'est en plus des succès à court terme. Parce que, comme je vous le disais, il y a des expositions chroniques, et ça peut nous réserver des surprises et des décrochements pour plus tard, pour ces populations, comme pour notre santé.
Mais alors, votre histoire, c'est la quadrature du cercle. J'imagine que pour qu'un pesticide fonctionne, il doit être toxique, sinon, évidemment, il ne fonctionnerait pas. Comment faire pour qu'il touche certains insectes et pas d'autres ? Ça ne peut pas exister, j'imagine, ce genre de choses, Marc-André Sellos.
Avec de la chimie, non, et Rachel Carson, dans son livre de 1962, nous disait à peu près ceci.
Il faut rappeler qui était
Rachel Carson. Il faut lire le livre de cette biologiste marine.
Le printemps silencieux.
Qui écrit Le printemps silencieux, elle quitte sa paillasse de biologie marine parce qu'elle réalise qu'en fait, il y a un problème dans les écosystèmes, on n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus les insectes.
Et d'ailleurs, premier ouvrage qui tire la sonnette d'alarme.
Mais non seulement il le tire, mais il est d'une actualité fulgurante. 60 ans après, on n'a toujours rien fait. Alors qu'elle nous dit, voilà, l'arme chimique s'abat sur la trame délicate du vivant comme le gourdin de l'homme des cavernes. Et elle nous dit, avant même qu'on ait utilisé la trame du vivant, voilà la solution. La solution, c'est la frappe chirurgicale. C'est ce que fait la lutte biologique. Vous avez une espèce indésirable, vous mettez son prédateur spécifique, et c'est ce que fait la lutte biologique. Vous achetez des acariens anti-acariens, des insectes anti-acariens, des insectes anti-insectes.
Alors quoi, votre punaise anti
et vous les lâchez
punaise
dans
diabolique, elle a, je sais pas, il suffit de mettre une punaise angélique pour avoir sa peau.
Eh bien, figurez-vous qu'elle a deux défauts. Elle a un insecte qui pond dedans. Et dont les larves se développent en dévorant la punaise. Oh. C'est un insecte parasitoïde. Il y a des tests aujourd'hui pour introduire ça. D'autre part, il y a des phéromones sexuelles pour attirer les partenaires. Bah, vous diffusez des phéromones dans un coin et les punaises arrivent dans ce coin-là. C'est encore pilote. Mais ça n'a pas été exploré. Pourquoi ? Bah, parce que comme on avait des ressources chimiques, on n'a pas fait la recherche pour avoir autre chose. Et c'est la maladie moderne. La chimie nous empêche de penser différemment et surtout de ne pas utiliser un gourdin pour écraser une punaise.
Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas d'autres effets secondaires à ces recettes que vous évoquez là, Marc-André Sellos ?
50 ans d'agriculture biologique. C'est tout. À un moment, il faut aussi lire les articles. Alors, je ne vous reproche pas de ne pas les lire. Au contraire, je vous suis extrêmement reconnaissant de m'accueillir. Mais il y a de la littérature.
Je suis très heureux de vous accueillir.
Quand un sénateur scélérate, et je mesure mes mots, comme Laurent Duplomb nous dit « L'agroécologie, personne ne comprend ce que c'est », Laurent, tu vas lire un peu, tu invites des gens qui ont compris, c'est normal, moi un texte de loi, personne ne comprend ce que c'est, je peux dire ça, n'empêche qu'il y a des gens qui manient des textes de loi, l'agroécologie, certains la manient, et c'est en fait une alternative qui est tout aussi efficace, on pourrait me donner des chiffres même dans certains cas, plus quand on utilise des cultures mélangées qui freinent la propagation des maladies, vous pouvez produire 30% d'un mélange, par exemple, céréales légumineuses en plus sur votre parcelle. Donc, non seulement ça nourrit le monde, en plus, ça freine la propagation des maladies d'un facteur 40%, et ça augmente le revenu agricole parce qu'au fait, ça baisse les charges. Et il faudrait qu'on parle du revenu des agriculteurs, parce que c'est ça le cœur du problème.
Eh bien, on va en parler dans quelques instants, puisque Marc-André Sellos, vous qui êtes biologiste et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous serez rejoint par un producteur de noisettes, parce que, comme vous l'avez évoqué, ces néonicotinoïdes, enfin cette race particulière de néonicotinoïdes, elle concerne des petites productions, ou en tout cas des productions de niche. Je ne dis pas que les noisettes sont inessentielles, c'est très important d'avoir des noisettes, mais c'est cela la question qui est posée par l'acétamipride. Et donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on pourrait s'en passer. On sera en compagnie d'Yves Thomas. En attendant, il est 8h sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nos invités sont donc le biologiste tout d'abord, Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. On vous doit notamment « Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle » aux éditions Actes Sud. Et nous sommes en duplex avec un producteur de noisettes et producteur de culture bio, Yves Thomas, bonjour.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Mon camarade Jean Lémarie a évoqué ces différents débats qui agitent l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Thomas, vous qui êtes agriculteur ?
Alors, l'agriculture est-elle immature ? Alors, moi, j'ai 59 ans, donc j'ai plutôt ma carrière derrière moi que devant. Je suis plus inquiet pour mes jeunes collègues. Mais en termes de maturité, je dirais, d'agriculture, je crois qu'effectivement, comme il l'a dit, c'est plutôt la politique d'accompagnement de l'agriculture et l'ensemble de nos réglementations qui aujourd'hui pose problème. J'entends tout à fait les débats qui ont été posés. Je rejoins à 100% Marc-André Sellos. J'ai lu quelques-uns de ses textes, écouté certains podcasts. L'agroécologie, pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas une doctrine contre laquelle on s'oppose, on la pratique.
Alors, justement,
précisément dans ma culture de noisettes.
Alors, les noisettes sont au cœur de la question donc de l'acétamipride. Vous en avez utilisé déjà, Yves Thomas, de l'acétamipride ?
Oui, j'avoue, jusqu'en 2018, jusqu'à son interdiction. Juste une petite parenthèse pour mieux se connaître. Moi, je suis producteur de noisettes depuis 2005. J'ai implanté un verger de taille moyenne, aujourd'hui 50 hectares, dans le sud-ouest, dans la région Lomagne, à côté de Toulouse, Auch et Montauban. Auparavant, j'ai eu une carrière d'ingénieur spécialisé en technique d'application des produits phytosanitaires, donc avec une mission de développement et recherche.
Ah oui, donc vous étiez un spécialiste de la spécialité.
Oui, j'étais dedans, mais dans le côté machine. Je suis ingénieur en machinisme, et donc c'était sur les techniques d'application. Donc c'est quelque chose que je connais très bien, les phytos, et je suis pas du tout fan de phytos. D'où mon choix de partir sur des cultures de soja, de blé, de tournesol, de sarrasin, de pois chiches en bio, conduite en bio. Et la noisette à côté, avec cette sensibilité bio, mais qu'on... Beaucoup de mes collègues producteurs de noisettes, quand on implante un arbre de noisetier dans un verger, dans un champ, qui est un champ de maïs ou un champ de blé auparavant, on commence à développer un écosystème qui va devoir rester plusieurs générations. Nous, quand on se lance là-dedans, c'est pour plusieurs décennies.
C'est pour vos petits-enfants. Mais donc au début, vous n'étiez pas en bio, ou là, en tout cas pas sur cette exploitation-là, puisque vous avez utilisé donc ce type de néonicotinoïdes.
Oui, allô.
Oui. Est-ce que
oui, on est en duplex et je suis dans mes vergers, donc je vous ai perdu un moment.
Voilà, je disais que vous avez de la chance d'être dans vos vergers, mais est-ce que lorsque vous utilisiez ces néonicotinoïdes, vous connaissiez leur toxicité? Que savait-on à l'époque, Yves Thomas?
Oui, Oui, parce que nous, utilisateurs, applicateurs de produits phytosanitaires, on a une formation. On a une qualification qui est révisée maintenant tous les 3 ans. On lit les fiches de danger. On sait que c'est dangereux. On doit porter des équipements de protection individuelle. Je rejoins encore une fois donc Monsieur Sellos sur le fait que parmi les premières victimes des produits de traitement en général, des néonicotinoïdes notamment, ce sont les agriculteurs, les applicateurs eux-mêmes. C'est une évidence.
Et ça, on le savait à l'époque, Marc-André Sellos. Mais alors, je ne sais pas si on porte ces équipements, est-ce qu'on annule les risques? Alors, pour l'être humain, puisque vous nous avez expliqué que pour les écosystèmes, en revanche, c'était différent.
Ben on les réduit, mais à terme, il y a quand même une exposition. Et puis souvent, on baisse sa garde. Moi, j'ai assez souvent circulé dans des exploitations agricoles pour vous dire que les précautions d'emploi, et un jour, on est pressé, il faut aller chercher les petits à l'école. Et bon. Donc, je voudrais d'abord saluer Yves et bien préciser que mon propos n'est pas dans l'agribashing. Je pense que l'agriculture, c'est un des plus nobles métiers qui nous soit donné d'observer, ou de faire d'ailleurs. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui s'y intéressent, parce que ça nourrit la planète. Mais en plus, dans une agriculture idéale et agroécologique, ça fait la qualité de l'eau, ça fait la qualité de l'air, ça construit les paysages. Au résultat, ça fait la santé. Donc l'agriculture peut tout. Et d'ailleurs, il y avait les propos chiraciens qui étaient assez intéressants à ce propos. Mais sur le naufrage du politique, alors là, j'aimerais insister très lourdement. En 95, on commence à avoir des recherches sur le biocontrôle à l'INRA du balanin de la noisette. Le financement n'a pas été poursuivi. Il y a un manque d'anticipation dans la recherche pour trouver des solutions. Et donc, les agriculteurs ont beau jeu de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution. Effectivement, on n'en a pas cherché. D'autre part, il y a aussi une lâcheté politique par rapport aux clauses miroirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec vous voyez, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez sécher la récolte pour qu'elle se fasse mieux, pour que les graines tombent mieux de pois ou de céréales, en aspergeant de glyphosate. Donc les clauses miroirs qui rendraient nos agriculteurs, effectivement, qui les priveraient de concurrence déloyale, voilà le rôle du politique. Financer aussi la prise de conscience dans l'opinion, par la formation, par l'information, que finalement, l'agriculture bio, elle réduit les coûts, parce que quand aujourd'hui on achète un produit d'agriculture conventionnelle 1 euro, il y a 1,3 euro de purification de l'eau, de coûts de maladie, d'absence au travail à payer ensuite. Donc ça coûte plus cher. Et là, c'est aussi...
Ça coûte plus cher après, parce que c'est ce qu'on appelle les externalités. Lorsqu'on fait ses courses...
Lorsqu'un cancer, c'est pas très externe. Je vous entends.
C'est le terme qu'emploient
les économistes. C'est le terme malheureux.
C'est le terme qu'emploient les économistes.
Et donc là, il faut vraiment investir à court terme pour éviter d'avoir une dette abyssale à long terme. Et je termine là-dessus. Dans ce contexte, divisé par 2 le financement de l'agence bio, c'est meurtrier. Je l'ai dit dans une vidéo récemment. On va dire, oh, tu exagères Marc-André. Mais non, il va y avoir des morts. Le courage politique n'est pas au rendez-vous, alors que le politique, il a une mission noble au service de l'agriculture.
Bon, mais alors Yves Thomas, vous qui produisez des noisettes en bio, puisque vous n'utilisez pas évidemment de néonicotinoïdes, qu'est-ce que vous utilisez pour que vos noisettes ne soient pas...
Oui, alors une petite précision dans ma présentation. J'ai une centaine d'hectares de cultures qu'on appellera facilement céréalières, c'est pas que des céréales, conduites en bio. Par contre, mes vergers de noisetiers, donc je suis... ce qu'on appelle un agriculteur mixte. Vergers noisetiers, eux, sont conduits en conventionnel et ne sont pas en bio.
Mais alors, vous n'utilisez plus d'acétamipride.
Oui, alors, on va y aller directement. Ce que je trouve intéressant, moi, dans la loi Duplon, c'est que on remet un débat sur les néonicotinoïdes. Au moins, ça a le mérite de mettre l'éclairage sur notre production. J'avais coutume de dire que le noisetier, c'est cool, parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Donc maintenant, aujourd'hui, on en parle énormément, un peu abusivement, en faisant un peu l'égérie, la noisette étant l'égérie des néonicotinoïdes. Il faut savoir qu'on nous a interdit les néonicotinoïdes, et très souvent, on nous propose des alternatives.
Mais alors, juste savoir, Yves Thomas, qu'est-ce que vous faites, puisque vous êtes privé de néonicotinoïdes? Est-ce que vous avez une alternative? Est-ce qu'elle a un surcoût? Est-ce qu'elle a, je ne sais pas, d'autres inconvénients?
Oui, mille fois, hélas. Et là, on est effectivement dans la folie de la réglementation strictement française, sans respecter les clauses miroirs européennes. On nous a proposé la pire solution qui soit, c'est-à-dire des produits précisément lambda, on peut le dire, insecticides lambda, notamment le lambda cyhalotrine ou la deltamétrine, qui sont des insecticides passe-partout. On traite aujourd'hui, on nous demande de traiter nos vergers au lance-flamme. C'est ce qu'il y a de plus destructeur pour la biodiversité.
Alors attendez, je vais laisser Marc-André Sellos réagir sur ces types de pesticides.
Bah, tout est dit, hein. Ils sont pas forcément meilleurs, ils sont peut-être un tout petit peu spécifiques, encore que, bon, les données qui sortent montrent que, bah, tout ça, c'est ce qu'il faudrait absolument éviter et n'utiliser qu'en dernière ligne. Or, aujourd'hui, c'est la première ligne. Bon, vous avez des résistances au balanin, par exemple, hein, qui existent, notamment en Turquie. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, les variétés résistantes, faut cueillir les noisettes à la main. Ça, d'ailleurs, vaut à la Turquie des petits ennuis parce que c'est souvent des enfants qui font ça. Mais, on peut demain avoir des variétés résistantes plus faciles d'utilisation contre le balanin. Pour la punaise diabolique, on a des pièges à phéromones, hein, on l'évoquait tout à l'heure, on a aussi des pièges à glu. Et en fait, ce qu'il faut se préparer à faire, c'est pas avoir une solution unique, comme elle, la pulvérisation, hein, mais d'avoir un empilement de solutions. Dois-je rappeler que les haies réduisent de 84% la propagation des agents pathogènes des cultures d'une parcelle sur l'autre, que en matière d'insectes, les chauves-souris mangent des insectes.
Il y en a beaucoup, hein, des chauves-souris.
Alors justement, il y en a un petit peu moins. Et aux États-Unis, il y a un problème dans certains comtés de maladies de chauves-souris qui les exterminent. Et un économiste de Stanford nous a montré que là où elles disparaissent, c'est plus 31% d'utilisation des pesticides, ce qui veut dire plus de coûts, et plus 8% de mortalité infantile.
Ce qui est effectivement quelque chose de significatif. Yves Thomas, vous qui produisez des noisettes, donc on a bien compris que quand on n'utilisait pas de l'acétamipride, on utilisait autre chose et c'était pire. Mais alors, aujourd'hui, vous voulez quoi ? Vous voulez revenir à l'acétamipride ? Vous voulez utiliser autre chose ? Parce que on aimerait bien savoir s'il y a des alternatives, puisque vous êtes en bio sur vos céréales, mais vous êtes en traditionnel sur vos noisettes. Est-ce qu'on peut cultiver des noisettes en bio ? J'imagine que oui, mais alors comment fait-on ?
J'ai essayé la production bio de noisettes, j'ai eu des résultats épouvantables. Voilà, donc en bio pur, tel que je conduis mes cultures, c'est économiquement impossible, aujourd'hui. Aujourd'hui, économiquement. Le problème qui se pose,
pourquoi
c'est que parce que précisément, on n'est pas armé pour lutter contre le balanin et la punaise diabolique. Alors, c'est principalement les deux sujets. Par contre, je voudrais dire que
comment ça se fait la filière. Excusez-moi, juste Yves Thomas, comment ça se fait que les fruits à coque bio existent, les amandes, les noix, etc., et pas les noisettes ?
Pas de chance.
Précisément, pas de chance à cause de ce balanin qui est spécifique à la noisette. Et aujourd'hui, aux dégâts généralisés de la punaise, bien pire que le balanin.
Mais qui n'attaque pas, par exemple, les noix de Grenoble, par exemple.
Il y a des effets, mais qui sont moins marqués. Je voudrais dire qu'au niveau de notre toute petite filière noisette, puisqu'on est moins de 500 producteurs en France, on a quand même, nous producteurs, longuement cotisé, on cotise toujours, pour développer seul notre recherche alternative à travers une structure qui s'appelle l'Association Nationale des Producteurs de Noisettes. Je tiens à saluer son travail, qui a des entomologistes pour essayer de trouver des solutions alternatives, notamment développer le fameux parasitoïde qui pond ses larves dans les œufs de noisettes. C'est à l'étude, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent, c'est notre autofinancement avec quelques aides de l'État et de l'Europe et également de régions, notamment la région Nouvelle-Aquitaine. On se heurte aussi à des barrières réglementaires assez ubuesques. Sachez que ce parasitoïde, qui a été identifié comme sédentaire en Dordogne, peut se développer donc à titre expérimental et un jour en développement dans la région Nouvelle-Aquitaine, mais il n'a pas le droit de traverser la frontière pour venir chez nous en Occitanie.
Oui, donc ce sont des tracasseries
administratives.
Mais alors, Marc-André Sellos, parce que donc on comprend bien que l'alternative, elle n'est pas facile à trouver pour la noisette. Est-ce que pour une culture qui est quand même une culture marginale, est-ce que on ne peut pas s'autoriser l'utilisation de néonicotinoïdes ?
Bah écoutez, moi je pense que par respect pour les agriculteurs, il faut qu'on leur trouve d'autres solutions. Et ça, c'est là qu'on se mord les doigts
de ne
pas avoir anticipé.
personne ne dit le contraire, mais aujourd'hui...
Aujourd'hui, si on n'a pas de solution, c'est qu'on ne les a pas cherchés, parce que je suis désolé.
Je ne comprends pas bien, parce que je pensais que la recherche en agronomie...
Le contrôle abandonné en 95, c'est quand même important. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu des reculades, alors qu'il était temps d'anticiper le problème.
Je vous entends bien, hein, Marc-André Sellos, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des financements importants pour la recherche, les substituts, etc., qu'on dépensait un pognon de dingue là-dedans.
Écoutez... Vous m'entendez, mais je suis pas sûr que les gens m'entendent. Moi, ce que je dis, c'est que on a vu retirer à la recherche en France 500 millions d'euros cette année. On a eu un retour de 100 millions d'euros pour accueillir les chercheurs rescapés du trumpisme. Mais au total, je vois pas ce pays s'orienter vers ce qui construit l'avenir et ce qui a autrefois permis de construire sa compétitivité. Et notamment sa compétitivité agricole. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en France, l'agriculture souffre d'une grosse maladie. Et elle souffre de maladies, hein. 43% de suicides en plus que dans la population globale. C'est quand même pas rien, faut le dire. Mais de l'association rendement-revenu. Je suis désolé, le revenu n'est pas fait du rendement. C'est fait du rendement quand on a enlevé les charges. Et aujourd'hui, il y a des charges énormes qui sont des charges financières pour les pesticides et des charges sanitaires quand on attrape un cancer. Et dans ce revenu, il y a aussi autre chose. Et d'ailleurs, 40% de l'excédent brut d'exploitation en France, c'est la PAC. Il y a les soutiens. Et on a besoin aujourd'hui que les gens qui nous écoutent comprennent que par des gestes de financement collectif et par des gestes d'achat, c'est eux et eux seuls qui peuvent soutenir le revenu des agriculteurs. Mais alors, si on les enjoint de ne plus utiliser certains produits.
Mais alors vous, Yves Thomas, justement, comment vivez-vous? C'est une question brutale, mais ça nous intéresse puisque...
Oui, alors je vis très mal de la rémunération de mes produits bio par le consommateur français. Déjà, sur la seule partie bio, il faut savoir que on est complètement planté.
Vous faites de la céréale bio, hein, c'est ça?
Oui, donc céréales, et, je disais pois chiches et autres. Les cours bio se sont effondrés. Aujourd'hui, on ne couvre plus nos charges en bio.
Mais c'est bizarre
là,
parce que
déjà, je ne vis pas de mes cultures bio.
En tant que consommateur, on a l'impression que les prix du bio sont beaucoup plus élevés. Mais alors... Qui en profite? Est-ce que ce sont les distributeurs qui margent plus sur le bio que sur le traditionnel?
C'est un autre débat, mais je réponds très précisément à votre question. Je ne vis plus de mes productions bio. Je ne vis plus de la noisette. Aujourd'hui, je vis de discussions avec mes créanciers, principalement mes banques, parce que j'ai 3 banques, comme de nombreux collègues, voient si elles me suivent ou si elles me mettent en procédure collective. C'est imminent.
Ah oui, donc c'est
terrible.
J'ai
des collègues qui ont arraché leur verger. Moi, je suis potentiellement en redressement judiciaire ou en liquidation. Et j'ai des collègues qui cherchent à vendre, mais ça ne se vend plus. Vous vous doutez bien, on n'arrive pas à survivre. On est dans une crise comme on n'a jamais connue, dans une production qui était en fait une niche dorée. Ce que je voudrais dire,
parce
quand
qu'avant
même,
on vivait bien de la noisette.
Oui, voilà, on est venu à la noisette. Pourquoi? Parce que c'était durable, parce que c'était écolo.
Ça marchait bien.
On n'est pas des productivistes, parce que c'était une solution alternative au maïs, parce que c'était économe en eau, parce que c'était une culture sympa qu'on allait pouvoir transmettre à nos successeurs, que ce soit enfants ou repreneurs. Aujourd'hui, ce n'est plus bankable. La filière est en danger. Et alors on parle du reste, la MSA, etc. Ben moi, ça fait partie de mes créanciers, la MSA, et son accompagnement qu'elle m'a proposé, c'est de me mettre en cellule de prévention suicide. Voilà où on en est quand on est producteur de noisettes dans le sud-ouest.
Mais le marché de la noisette est un marché important. Alors c'est un marché de niche, mais c'est un marché important.
Non, c'est un marché très important en France. La production est de niche, mais le marché est très important. Français consomment énormément de noisettes. On importe 90%.
Mais alors c'est ça. Mais alors comment font les autres? Comment font les producteurs de noisettes à l'étranger? Est-ce que là on touche justement à ces fameuses clauses miroirs?
Oui. On touche aux clauses miroirs. Tout le débat sur les néonicotinoïdes, c'est que on est les seuls à ne pas avoir le droit de les utiliser. Je dis pas que c'est la panacée,
on en
aurait besoin pendant une période de transition pour les 500 producteurs que nous sommes, dans un usage qui est extrêmement réglementé. On n'a pas demandé autre chose qu'une dérogation.
Donc si je comprends bien, Yves Thomas, vous n'êtes pas contre la loi du plomb, parce que cette loi du plomb, elle vous donnerait un peu d'oxygène.
On a besoin d'oxygène. On est totalement asphyxié. Les produits phyto alternatifs nous ont fait passer d'une pratique de traitement avec des néonicotinoïdes qui étaient des traitements chirurgicaux. Je ne dis pas que c'est la panacée. Mais on faisait deux traitements néonicotinoïdes ciblés, encadrés. Aujourd'hui, avec les produits passe-partout qu'on nous demande d'utiliser, c'est de l'artillerie lourde. Moi, je suis passé de deux traitements à pratiquement 10. On traite tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André Sellos? Parce que là, on voit bien l'aporie de ce débat. D'un côté, on a effectivement...
Non, mais il y a une souffrance humaine qui fait mal. Et Yves, je supporte pas de voir effectivement les agriculteurs dans cette guéenne-là. C'est insupportable. Mais quelque part... Les gestes à court terme que propose la loi Duplomb. Et il y a aussi des choses sur faire des bassines pour avoir de l'eau, n'est-ce pas? C'est des choses qui, en fait, sont addictives parce que ça enfonce dans un système qui est en train de couler. Demain, il y aura un autre parasite qui va s'introduire et il faudra encore avoir un problème. Le truc, c'est de diversifier l'agriculture.
Les clauses miroirs.
C'est de faire des clauses miroirs, c'est de diversifier l'agriculture pour que les maladies se transmettent moins bien et que le risque soit plus équilibré. C'est aussi, autant que possible, de développer des méthodes agroécologiques, des méthodes de lutte biologique basées sur une recherche inscrite dans des territoires et sur des productions. Mais quelque part, sauver une filière telle qu'elle est, c'est addictif et demain, ça s'écroulera. Et quand le politique fait ça, quand le politique entretient par des mesures à court terme, quelque chose qui, à long terme, est menacé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même qui est menacé à terme. Quelque part, derrière le déni de démocratie qu'on a vu, c'est aussi l'échec du politique, en tant que politique, à envisager notre avenir collectif.
Mais alors, Yves Thomas, il n'y a pas de solution pour les producteurs de noisettes, parce que ce que vous nous dites est effrayant. C'est-à-dire, vous nous dites, voilà, je suis quasiment en dépôt de bilan, il n'y a pas de possibilité. Est-ce que c'est...
Allô?
Oui. Yves Thomas, non, je décrivais votre détresse, la situation précaire dans laquelle vous étiez, et je me demandais justement si ça n'était pas lié au fait que la culture de la noisette est peut-être moins dirigée vers les consommateurs que vers l'agro-industrie ou des producteurs d'autres produits qui la transforment.
Oui, j'ai retrouvé le contact. Vous m'interrogiez sur l'avenir de la filière
et de ses débouchés.
Là, elle est carrément menacée. Simplement pour des raisons de compte de résultats d'exploitation, avec toutes les réserves que Marc-André Sellos a évoquées. Effectivement, on a la PAC hein, qui nous conforte un petit peu. Mais enfin, la PAC. Moi, j'ai implanté 10 km de haies. J'ai respecté mes vieilles haies. J'en avais aussi une dizaine de kilomètres. J'ai le bonus haies à la PAC. On me donne 6 € de l'hectare. 6 € de l'hectare, je paye même pas le contrôleur ou l'organisme d'accompagnement qui vient me certifier et me donner mon label.
La PAC, donc, elle vous fournit quel pourcentage de vos revenus, Yves Thomas?
Le pourcentage de revenus de la PAC, et vous savez, il augmente régulièrement parce que mes produits de vente baissent. Donc aujourd'hui, c'est 20%.
20% de vos revenus sont fournis par la PAC. Oui, donc on voit cette équation difficile. Merci beaucoup Yves Thomas. J'espère que les choses vont s'arranger pour vous et les autres producteurs de noisettes, parce qu'on comprend bien dans quelle situation terrible vous êtes. Marc-André Sellos, quelques mots très rapides de conclusion.
Ah oui, la PAC, elle coûte 100 € à chaque contribuable en France, nourrissons compris. Et c'est peut-être pas beaucoup pour une agriculture multifonctionnelle qui fasse aussi la santé, qui ait des sols qui permettent de stocker du carbone, donc qui fasse le climat, qui fasse la qualité de l'eau. C'est quelque chose dans lequel on pourrait investir pour ne pas payer 18 milliards par an d'externalités secondaires, et surtout, pour rendre les agriculteurs heureux, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec les agriculteurs, ils vont pas bien.
Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Actes Sud, où vous revenez sur la génétique, l'évolution des plantes, la manière dont celles-ci sont essentielles pour la vie des hommes. Dans quelques secondes, le 8:45 et les deux François.